C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 22 mars et il est 8h30. Arthur est à la technique, bonjour Arthur.
Bonjour à vous.
Et aujourd'hui tu nous as ramené un petit reportage au programme de cette matinale, le printemps est là, c'est un plaisir de l'accueillir. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comme tous les ans, les 48 heures de la BD à Saint-Enimy reviennent en amont du festival Enimy BD qui lui aura lieu au début de l'été. On parle de ce qui va se passer le premier week-end d'avril dans cette jolie petite bourgade. Dans un instant, juste après l'édito et en deuxième partie d'émission, je viens de l'aborder, notre caution de gauche ici à la radio. Arthur, tu étais sur les ronds-points et autres manifs ici à Florac et tu nous en as fait un reportage. Il y a un peu de colère en ce moment, non?
Oui, il y a pas mal de colère. Moi, je vous en parlerai en fin
avec plaisir. Ce sera en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab et aujourd'hui une jolie découverte. Elle s'appelle Sona Jobarté, une artiste d'origine gambienne. J'ai adoré, vraiment, c'est absolument trop cool. Et un morceau de dernière minute, n'est-ce pas Arthur?
Mm-hmm.
Qui a un lien en fait avec le reportage.
Oui, suppose. Oui, oui.
On écoutera ça en fin d'émission. Eh ben voilà, c'est parti. On est bien sur Bartas et on y va pour l'édito.
Être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là.
Ce n'est que l'édito des Bartas. Les aléas du direct, mon Arthur. Suis-je inspiré ce matin? Bof, c'est pas trop la question. Est-ce qu'on a le moral? Bah, bof, bof, on a quand même une sacrée gueule de bois. Bon, on en est où après ce manque de 9 voix à l'Assemblée pour renverser le gouvernement? Le Conseil constitutionnel a été saisi et ce serait vraiment trop long pour vous expliquer pourquoi certains des articles de la loi sur les retraites sont anticonstitutionnels. Mais je vous mets plusieurs liens sur notre site dans un instant qui l'expliquent très bien. Alors l'étape suivante, il va y avoir une proposition de loi sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, et elle a été déposée par 250 parlementaires. Si elle est acceptée, cette proposition devra être soutenue par un dixième des électeurs, soit 4,87 millions de personnes. Les signatures devront être recueillies dans un délai de 9 mois. C'est une proposition de loi qui annule celle du gouvernement, a indiqué le député du Parti communiste de Seine-Saint-Denis, premier à avoir évoqué cette voie d'opposition à la réforme. Si le seuil des électeurs est atteint, le Conseil constitutionnel rendra une décision dans ce sens et le texte sera ensuite soumis à un référendum. Mais est-ce que le gouvernement va l'accepter alors qu'il a déjà refusé que l'Assemblée nationale vote le texte? 70% des Français sont contre la réforme. Est-ce que ces fois-ci, les politiques vont faire confiance aux sondages, ces mêmes sondages dont ils disent qu'on leur fait faire dire ce qu'on veut? Bon, il faudra suivre avec attention ce qui va se passer, mais en tout cas, si référendum il y a, on peut être sûr d'une chose, il n'aura pas lieu avant au moins un an. D'ici là, on peut donc être quasiment sûr que la rue ne va pas se calmer. Au contraire. Allez, dans un instant, on parle de bande dessinée, une bonne bulle d'air, ça va faire du bien. On écoute d'abord Sona Jobarté, le morceau s'appelle Musao. Sona Jobarté, Musao, de retour en plateau avec Philippe. Le premier week-end d'avril à Saint-Enimy, c'est le retour des 48 heures de la BD. On va en parler. Et d'abord, d'où est né, allez, n'ayons pas peur des mots, cet amour entre toi, vous et Saint-Enimy et la BD?
Oh, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un petit lieu médiéval où des passionnés de ce genre se sont mis à organiser des temps festifs. Et dans ces temps festifs, l'image prenait sa place. Certains étaient passionnés de BD et se sont dit que finalement, à côté des combats, des spectacles et autres danses, il y avait peut-être la place aussi pour de la BD. Et donc c'est parti de là. C'était dans les années 2007. Donc il y a déjà une quinzaine d'années, bon poids. On sera à la 16e édition en 2023. Et voilà.
Une histoire d'amour qui dure donc. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord le concept des 48 heures de la BD ?
Concept important puisque c'est d'abord et avant tout une idée de prix. Alors le prix a un peu évolué puisque depuis l'origine c'était à 2 €, ça vient de basculer d'un coup là à 3 €, aïe. Mais ça reste quand même donc un prix très attractif pour permettre au grand public, à tout le monde, petits, enfants ou grands qui veulent découvrir la BD et ses différents genres, d'y accéder facilement. Une quinzaine d'éditeurs européens se mettent dans la boucle, autorisent donc en conséquence un prix cassé, seulement pendant 48 heures, c'est pour ça qu'on les appelle les 48 heures de la BD, et permettent donc de diffuser assez largement sur l'ensemble du territoire français, à partir du moment où il y a des relais locaux, ce type de possibilités d'accès à un prix bas.
Alors quand on s'est eu au téléphone hier, tu m'as dit aïe, compliqué de venir ce matin, mais tu es là, merci beaucoup. C'était pas évident parce que avec tes collègues, il y a une installation de prévue à Saint-Élémy, raconte-nous tout.
Oui, inévitablement Saint-Élémy redémarre, hein, c'est le printemps, alors ça redémarre sur les rues, sur les routes, hein, je crois qu'Arthur en parlera tout à l'heure. Nous, on essaye de laisser notre trace aussi, à notre façon. En l'occurrence, on va mettre en place un parcours dessiné, comme chaque année, avec donc des illustrations que nous offrent les auteurs qui passent par là à l'occasion du festival, qu'on a installé sous forme de grands panneaux et qui permettent de traverser depuis la rivière jusqu'en haut du village le parcours de la cité médiévale, mais avec un regard et un clin d'œil souvent un peu humoristique que le dessin artistique permet. Quoi.
Elle restera en place jusqu'au festival.
Oui, c'est une installation saisonnière volontairement. Elle démarre là à l'occasion des 48 heures et elle va même au-delà du festival puisque on a maintenant un troisième événement à l'automne qui s'appelle à la source d'Enimi et qui nous permet de faire la relation avec l'histoire du village et sur lequel bien sûr les panneaux seront présents également.
Alors, les 48 heures, ça commence le vendredi 31 mars et vous recevez, ce n'est pas rien, Emmanuel Nieu, qui n'est autre que l'illustrateur qui a créé les graphismes de la campagne nationale des 48 heures cette année quand même.
Eh oui, une petite relation privilégiée avec les 48 heures, c'est notre cinquième contribution. Donc effectivement, on a établi des liens et parmi ces liens, l'idée c'est pas seulement se contenter de mettre les BD en vente, mais aussi provoquer une rencontre avec les publics et donc notamment les publics scolaire. Le vendredi, le 31 mars, c'est consacré à ça. Emmanuel sera à nos côtés pour aller sur le terrain mandois cette année, et notamment vers les adolescents, avec une intervention en lycée, au lycée Peytavel le matin, et puis une intervention en collège, au collège Bourillon l'après-midi.
Il va parler de son travail ou alors c'est vraiment un atelier qu'il va donner
Les deux. Toujours, je crois que c'est important d'avoir d'abord un premier contact, d'établir un lien avec un professionnel. Hein, pour les gens qui reçoivent, c'est quand même d'abord cet instant d'émotion. Donc ma vie, mon œuvre, hein, toujours. Et puis quelque part, quelques échanges sur le travail en cours, les planches, etc. Quelques yeux qui brillent aussi quand il prend le feutre et qu'il se met à utiliser ses personnages comme ça, là, spontanément. Mais aussi, bien sûr, un atelier, parce que on est sur une amplitude de 2 heures, 2 heures et demie chaque fois. L'idée, c'est bien qu'il y ait aussi du faire et de la création et que ça donne envie peut-être parfois d'aller plus loin. Hein. C'est comme ça souvent qu'avec les enseignants, on crée des liens qui permettent d'aller après vers des projets.
Et pourquoi pas faire naître des vocations. Alors on y va pour le programme parce que il n'y aura pas que des BD et des mangas à 3 €. Il y aura quand même pas mal de choses qui vont se passer le samedi avec un vieil habitué, Eric Hupsch.
Et oui, Eric Hupsch est toujours là. Il fait partie de la cité médiévale, ouais, presque. Voilà. Il est donc avec une nouveauté qui s'appelle le Royal Fondement, avec son graphisme très particulier, mais qui vient souligner là la relation entre l'humour et le pouvoir, qui est particulièrement intéressante parce que finalement, ça va se passer à la période de Louis XIV. Il y a des ressemblances avec quelques monarques qui sévivent en ce moment et qui, sur son fondement, pourraient se poser les mêmes questions. Voilà, donc un petit clin d'œil à l'actualité, peut-être un peu distant dans l'histoire. voir, mais pas si distinct que ça sur le fond des choses. Mmh. Voilà, donc Eric sera là, lui, le samedi. Il sera en dédicace. Et puis aussi, on essaye de faire en sorte qu'on trouve des rendez-vous pour que les jeunes se disent à quel moment ils ont envie d'y aller plus particulièrement. Donc Eric sera en atelier. L'après-midi à partir de 15h, ouvert à tous, petits ou grands. Et le matin, par contre, on fait un clin d'œil aux plus petits, dans le regard entre l'image et la voix. Et donc avec une mise en voix de textes et d'albums par Stéphanie Brio, qui est une voisine presque, puisqu'elle est là à Hispaniac, et qui a toujours cette capacité à enchanter des moments un peu sympas, un peu cosy, avec des tout-petits. Voilà, donc ça c'est un rendez-vous à 10h30 le matin, le samedi.
Stéphanie, qu'on recevra dans une quinzaine de jours, puisqu'elle organise le Gestival ici à Florac. Est-ce que les 48 heures de la BD fonctionnent aussi bien que le festival Ennemi BD, ou est-ce qu'il y a un peu moins de monde vu qu'on n'est pas en saison, comme on dit ?
Alors, on est volontairement sur deux événements complètement différents et qui, pour nous, se doivent d'être différents. L'un, comme je le disais tout à l'heure, est destiné à amorcer la démarche vers la BD pour ceux qui n'y sont pas, et notamment vers les nouveaux genres, on pourra en parler peut-être. Hein. Le manga trouve sa place de plus en plus. Il est donc souvent plus destiné à un public local, départemental ou régional, qui, à cette saison-là, a envie de commencer à sortir un peu, c'est le printemps. Voilà. Et par contre, effectivement, le festival, lui, a sa dimension nationale et internationale, et sa place en début d'été permet justement ces déplacements un peu lointains, et donc une population parfois plus spécialisée, parfois plus curieuse aussi sur le domaine de la BD, la rencontre avec les auteurs, et donc une population souvent plus nombreuse, bien sûr.
Mmh. Est-ce qu'il y aura forcément d'autres auteurs qui seront aux 48 heures de la BD quand même, ou
Oui, alors on accueille indirectement à travers leurs ouvrages des auteurs locaux, comme toujours, Val, Juliette Lévejac et autres, qui nous mettent à disposition leurs ouvrages pour qu'on puisse les valoriser. Mais on a mis cette année le focus sur ces deux auteurs, Emmanuel Nieux, parce qu'il a le talent de pouvoir à la fois faire du documentaire, de la fiction, du manga, du jeunesse. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les auteurs ne sont pas spécialisés, enfermés dans un genre.
Tu m'étonnes.
Ça compte beaucoup. Et puis Eric, parce que lui aussi, finalement, quand on regarde son parcours, il a un parcours très éclectique. Et donc c'est une façon de témoigner un peu de l'évolution de ce monde de la bande dessinée, qui aujourd'hui est leader dans le monde de l'édition, hein, largement, mais qui à l'intérieur bouge aussi beaucoup, quoi.
Alors tu l'as abordé, hein. Donc moi j'avais formulé ma question en parlant du pass culture pour les jeunes, hein, une petite somme d'argent, voilà, et qui avait permis au marché du manga de grandir. Toi t'es pas tout à fait d'accord avec ça, hein. Tu dis que c'est pas grâce au pass culture que le manga a explosé.
Non, je pense que ce qui fait d'abord l'explosion du manga, bon, c'est son accès très facile en termes de lecture. C'est quand même d'abord un graphisme très conséquent, avec du travail sur le gros plan, peu de texte, une évolution rapide dans les scénarios, des scénarios qui sont relativement simples et qu'on peut retrouver au fil de la collection. Donc des personnages qui parlent en plus au public, aux adolescents notamment. Et surtout un coût très accessible. Aujourd'hui, un manga, ça évolue entre 6 et 8 euros au plus. Et encore, ça a bien évolué vers le haut. Mais ça reste très accessible. Et puis, ça se partage. Ça circule. On en parlait, les CDI aujourd'hui, dans les collèges ou les lycées, il y a des étagères avec des mangas. Il y a 5 ans ou 10 ans de ça, on n'aurait pas pris ce risque-là, quoi.
Oui, et puis ça peut se lire sous la table pendant les cours aussi.
Quasiment, voilà. C'est plus facile. Et puis si on se le fait choper, c'est quand même moins pire qu'un téléphone, quoi.
C'est ça. La BD, c'est grand, quoi.
Voilà, c'est ça, la BD. Bon, il faut la mettre sous la copie et c'est pas toujours facile, quoi.
Est-ce que c'est justement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la BD que le manga explose comme ça ?
Bah, c'est toujours une bonne nouvelle, de toute façon, que le papier garde sa place. Je crois que ça, c'est ça l'essentiel. Ce contact, cette émotion qu'on a tous quand on lit un livre, un roman ou autre chose, on le retrouve aussi, bien sûr, dans le monde de la BD, et le manga fait partie de ça. Parce que, quelque part, c'est un moment où on peut être avec soi-même, avec un livre, un moment de, presque, j'allais dire, d'émotion, de recueillement à sa façon, qui n'est pas tout à fait la même chose quand on est face à une animation ou un élément vidéo. Alors le manga a sa répercussion immédiate souvent, voire même avant, dans le monde de l'image animée, bien sûr. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de constater que même si il y a une répercussion dans le monde de l'image animée, parfois d'ailleurs ça part de là et puis le manga papier arrive après, le manga papier a sa place. et trouve bien sa place aujourd'hui, j'allais dire dans les cartables, plus dans les sacs ou dans les bibliothèques ou dans les CDI. Et ça, c'est important, quoi.
Alors, on le dit quand même, la BD se porte bien. Est-ce que c'est parce qu'elle permet de s'extirper d'une réalité, disons, un peu morose ?
Alors, je pense qu'il faut nuancer. La BD, au sens global du terme, en tant que diffusion, se porte bien. Les chiffres sont conséquents. Hein. La BD est aujourd'hui effectivement ce qui tire le monde du livre. Par contre, en termes de production pour les auteurs, c'est compliqué. Mmh. Parce que les éditeurs s'étant emparés de ce marché, puisque c'est devenu un marché, en fait, les auteurs sont de plus en plus mis en concurrence, pressés un peu dans le temps. On voit apparaître de plus en plus des one-shots et très peu de collections, donc peu de visibilité pour les auteurs. Ça, c'est la face cachée de cette évolution brutale quantitative de la BD. Par contre, c'est vrai que si on regarde le chiffre d'affaires global du monde de la BD, il est très en avance. Et aujourd'hui, à l'intérieur de ce chiffre d'affaires, le manga commence à trouver sa place.
Et c'est ça qui fait, en fait, on a envie de sortir de la réalité, quoi.
Oui, bah ça reste, de toute façon, à partir du moment où on commence à se poser sur un livre, que ce soit un livre, une BD ou un manga, c'est vrai qu'on décolle.
On s'en va.
Voilà, on s'en va.
C'est de 10h à 18h le 1er avril, c'est ça ?
Alors on commence le matin, oui, à partir de 10h, on est en continu jusqu'à 18h, parce que ça permet à chacun de venir un petit peu quand il en a envie. Les deux rendez-vous du matin à 10h30 avec Stéphanie Briot et à 15h un atelier avec Eric Hupch sont là pour donner un petit peu un rendez-vous pour ceux qui souhaitent se dire tiens, j'y vais à ce moment-là, et puis j'en profite en même temps pour aller voir ce qu'il y a à côté, la librairie, les BD à 3 euros, etc.
Est-ce que c'est plus simple d'organiser les 48 heures de la BD que le festival Enemy BD ?
C'est pas le même enjeu. C'est pas le même enjeu. Ça s'inscrit pour nous à un moment de l'année qui est dans notre dynamique de territoire. C'est-à-dire qu'en fait, le mois de mars, c'est souvent le moment, enfin, pour nous, à partir de l'automne et là, en hiver, on est beaucoup sur le terrain scolaire. Et donc, ça s'inscrit bien dans cette démarche-là. La preuve, c'est qu'Emmanuel Nieu donc, sera plus présent finalement sur le terrain scolaire que sur le grand public. Donc, à ce niveau-là, pour nous, c'est intéressant et c'est dans une continuité de travail. Après, en termes d'organisation face au public, c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il faut arriver à placer dans la culture locale le fait que c'est un rendez-vous qui est différent de celui du festival. Voilà. Le festival, aujourd'hui, est rentré dans les mœurs et dans les attentes. Les 48 heures, ça commence.
Alors justement, même si tu reviendras nous en parler dans quelques semaines, le festival Enemy BD, c'est au début de l'été, ce sera quand ?
Alors cette année, c'est le premier week-end de juillet.
Ah, ok, voilà. Ça reste
On est resté sur ça, parce qu'en fait, après, il y a des événements dans le département qui ont aussi leur place le week-end suivant, donc on voulait garder cette place-là. C'est important aussi dans le monde de la BD, les repères sur les week-ends. Ce sera donc le 1er et le 2 juillet. Voilà, avec, comme d'habitude, une trentaine d'auteurs. Cette année, c'est Jacques Terpin qui a accepté de nous signer l'affiche. Elle est assez exceptionnelle, une fois encore. Hein. Chaque fois que les auteurs acceptent de faire une affiche, on est toujours, nous, scotchés par l'engagement qu'ils y mettent. Donc, celle de Jacques Terpin ne fait pas défaut. Et puis, il a drainé avec lui 4-5 copains, comme ils font tous. Quoi. Voilà. Et donc, ça fait, je pense, ça fera encore une belle affiche. Ouais.
Et vous avez déjà quelques noms de dessinateurs prévus ?
Oui, bien sûr. Bon, donc Jacques sera là. Il draine avec lui André Houot, Jocelyne Charance. On a Gilles Mézomo qui arrive avec des nouveautés. On a Florence Magnien qui sera au rendez-vous, bien sûr, avec sa dimension héroïque fantasy. Voilà, bon, je ne cite quelques-uns, mais ouais. La liste est un peu plus longue, bien sûr.
On en reparlera de toute façon. Alors, une petite question d'ordre politique. À Angoulême, l'expo de Damien Vivès a été déprogrammée. La raison invoquée, c'est qu'il a été accusé de faire de la diffusion d'images pédopornographiques dans son travail. Quel est ton avis là-dessus, si tant est que t'en aies un ?
Oui, avis, je ne sais pas, mais le monde de la BD reste encore, à l'intérieur du monde de l'édition, un monde libre. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est un monde de libre expression où chacun peut traiter le sujet qui le passionne ou qui l'intéresse, le traiter avec son regard. On a un exemple intéressant, c'est la revue Dessinée, hein, qui est un très bel outil d'information, mais qui, à partir d'une même information, peut être traité sous différents angles, graphiques ou documentaires. Et je crois que dans cette veine-là, chacun a le droit, du coup, de s'exprimer avec sa façon d'être, sa vision des choses. Alors ça peut choquer, c'est certain, parce qu'il y a des limites qui peuvent aussi, qui doivent ne pas être dépassées, bien sûr, mais chacun est libre de consulter ou de ne pas consulter. C'est pas comme une image audiovisuelle qui est matraquée dans une télévision ou un message radio qui est répété. Là, c'est quand même un acte volontaire. Quand on va vers un livre, quand on va vers une BD, donc la liberté de l'auteur se doit d'être respectée de toute façon. Quoi.
Comment vous choisissez les artistes qui viennent au festival?
Ah, c'est une c'est une belle c'est une belle gageure, parce qu'en fait on est à la fois dans une continuité. Ça c'est important, on a quand même un certain nombre d'auteurs avec qui on a des relations privilégiées, on a aussi la nécessité de faire en sorte que les gens qui nous fréquentent régulièrement trouvent de la nouveauté. Donc deuxième clé. Troisième clé, c'est important pour nous aussi de répondre aux différents genres qui sont aujourd'hui présents. Donc depuis 2020, on a mis en place trois espaces, hein, un espace BD, un espace jeunesse et un espace manga. Donc ça aussi, c'est une clé importante. Et donc quand on a posé ces trois clés, les anciens, les nouveaux et puis les différents genres, ensuite, il y a beaucoup de travail de cooptage en fait. C'est un monde où les gens se connaissent beaucoup, où les gens se parlent et où les gens se recommandent. Et donc du coup, Saint-Élémy a gardé et garde toujours pour le moment cette image d'un lieu convivial, d'un lieu qui arrive en début d'été où on va se faire plaisir, où on va être un peu entre potes, où on a un public sympa avec qui on prend du temps. Les dédicaces chez nous sont toujours très soignées. Les gens sont très surpris du fait qu'un auteur, un illustrateur est capable de perdre ou de prendre.
Ouais, de prendre. Ouais.
Voilà, demi-heure, voire trois quarts d'heure pour échanger, dessiner, mettre en couleur, etc. Et ça, c'est ce qui fait aussi un peu la force du recrutement autour d'Enimi BD. Quoi.
Et c'est aussi parce que pour les auteurs, autrices, c'est quelque chose d'important, en fait, de venir dans des salons comme ça. On en avait parlé d'ailleurs avec Val, que pour eux, s'il n'y a pas ces salons et la rencontre avec le public, c'est compliqué de vendre, tout simplement.
Alors, pour un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui ne sont pas dans les grands circuits de distribution, c'est essentiel que le réseau des festivals continue à les mettre en valeur. Et ça, c'est une de nos missions. Hein. Nous, on a toujours travaillé dans ce sens-là, pour les auteurs locaux, pour les auteurs régionaux, mais aussi pour des petits auteurs ou des éditeurs de dimensions plus alternatives qui trouvent là une valorisation. Donc ça, c'est essentiel. Après, c'est aussi, pour les auteurs, un temps de rencontre entre eux. J'allais dire un temps social, parce qu'en fait, c'est un métier très solitaire. On est face à sa planche, on est face à ses angoisses, on est face à l'éditeur qui pousse parce qu'il faut sortir les planches plus vite que prévu. Et cette pression, à un moment, il faut qu'elle se lâche. Et les festivals, ça sert à ça, quoi. C'est d'abord aussi des moments de rencontre. Et c'est ce qui fait un peu la valeur de notre festival à Saint-Élémy, c'est qu'on reçoit les gens avant et après les dédicaces dans des moments conviviaux, des moments de partage. Le vendredi avec des balades, canoë, une soirée dans une guinguette, le dimanche soir un petit truc sur le cos. Bon, autant d'éléments qui créent du lien, quoi.
C'est ça, vous êtes vraiment aux petits oignons et vous les accueillez formidablement bien.
Oui, on crée du lien. Voilà, je crois qu'avec eux, entre nous, entre eux, c'est ça l'essentiel.
Est-ce que tu aurais un ou deux conseils de bande dessinée ce matin pour nos auditeurs?
Moi, je crois que en termes de conseils, aujourd'hui, comme on le disait, les genres ont explosé. Il y a vraiment des genres très divers. Il me semble que dans la sélection des 48 heures cette année, c'est intéressant parce que nous, quand on l'a aperçu, il y a une douzaine d'ouvrages, on a repéré 5 mangas. On s'est dit, oh là là, le genre manga est en train de prendre beaucoup de place. En fait, il y en a deux qui sont, pour ceux qui ne seraient pas, je pense notamment, alors les ados, à mon avis, ils les connaissent déjà parce que c'est des collections qui sont déjà bien installées. Par contre, pour ceux qui ne connaîtraient pas le manga et qui auraient quelques réticences à se dire c'est quoi ce truc, c'est pour les ados, etc., il y a deux séries là qui sont pas mal. Il y a Fairy Tail et puis Wakfu, qui sont aujourd'hui bien placés dans le lectorat ado et qui peuvent trouver pour des publics non initiés une place intéressante dans leur lecture, quoi.
Arthur, t'es un lecteur, toi, de bande dessinée ou de manga?
J'ai surtout regardé des animés de manga, mais oui, j'ai lu beaucoup de manga. Ouais.
Quant à moi, j'ai trois conseils ce matin. Alors, au-delà, évidemment, de tout le travail de notre ami Val, que j'embrasse puisqu'il nous écoute, n'hésitez pas à lire Échec et Pat ou encore Jean-Michel Bordard Folie. Ce matin, je vous conseille aussi Le Loup est revenu de Marco, qui est du coin, hein, c'est tout simplement génial.
Sympa. Très sympa. On l'avait reçu, Marco, il y a 3 ans, quand il a effectivement édité Le Loup est revenu. Et ça fait un tabac. Hein. Ouais. Sur le festival, il avait super bien marché. Ouais.
Alors, il n'est pas facile à trouver puisqu'il a été auto-édité. Hein,
ouais, c'est
semble,
ça. Hein. Tout à fait.
Donc, si vous passez à la radio, on peut vous le prêter, il n'y a pas de souci, mais vous nous le rendrez. Et je dirais aussi, Topaz, tiré de l'œuvre de Marcel Pagnol, bande dessinée de Eric Hupsch, de Serge Scotto et d'Eric Christoffel. C'est vraiment bien foutu et on passe un moment assez sympa. Merci beaucoup Philippe.
Merci à vous. À bientôt. Donc, a priori, à samedi 1er avril. Puis il y a peut-être du poisson dans la rivière, mais là, c'est pas un poisson.
Les 48 heures de la BD, c'est effectivement le premier week-end d'avril et c'est bien sûr à Saint-Enimie. Et on se revoit dans quelques semaines pour parler du festival Enimi BD, festival dont on est partenaire et on en est très heureux. À très très bientôt et bonne installation.
On va essayer.
Allez, dans un instant avec Arthur, on part en manif. On écoute d'abord Sona Jobarté. Le morceau s'appelle Jarabi. Sona. Alors du coup, j'ai bien compris là que je dois dire Sona Jobarté et le morceau s'appelle Jarabi, une artiste gambienne. Allez découvrir son travail, c'est vraiment absolument extraordinaire. Arthur, notre petite bourgade n'échappe pas et c'est tant mieux au mouvement social. Tu y vas régulièrement et tu nous as ramené plein de choses.
Et oui, Ben, combien de fois devra-t-on encore rappeler l'histoire de la sécurité sociale, sa naissance dans le contexte de l'après-guerre où les forces réactionnaires se taisaient. Ce coup de force de la classe ouvrière qui enfin s'organise d'elle-même pour créer des caisses basées sur la cotisation, puis la redistribution. Oui, la sécurité sociale est l'idée des travailleurs et elle appartient à eux seuls. La sécurité sociale permet de s'épanouir puisqu'elle permet que tous nous garantissions les soins, une vie décente, un individu qui est en incapacité temporaire ou non de travailler. La société lui dit « N'aie pas peur, tu n'es pas responsable de ta malchance, on assure tes arrières ». L'État français a récupéré cette invention pour l'intégrer à sa doctrine idéologique du néolibéralisme. Dans sa bouche, les patrons et les salariés payent des charges. Cette charge, qui est toujours scandaleusement lourde, sert à assister des fainéants qui ne veulent pas travailler. Aux salariés, on marque sur leur fiche de paye qu'on leur ôte le pain de la bouche pour le donner aux plus malheureux qu'eux. Cela fait d'ailleurs penser à une certaine église catholique qui, à une certaine époque, tout en se gavant, prêchait la sobriété et levait l'impôt. Mais ne te trompe pas, salarié qui écoute Radio Bartas dans ta voiture ou sur le chantier, car quand tu cotises pour la sécurité sociale, c'est toi-même que tu protèges. Si demain, ton patron t'a fait courir un danger, la société te soignera. Tu pourras te reposer et reprendre le travail à ton rythme. Si tu veux faire autre chose de ta vie, fais donc autre chose, étudie toute ta vie, prends du temps libre, pratique l'entraide. Si tu entends un discours différent, c'est que tu es tombé sur un de ceux qui cherchent à nous maintenir dans notre servitude, à nous expliquer qu'en dehors du travail imposé et contraint, nulle vie n'est possible. Mais en vérité, une vie sans travail n'est possible que pour celui ou celle qui a des esclaves. Car crois-moi, les femmes au foyer, les étudiants, les chômeurs qui essayent de joindre les deux bouts, les travailleurs et les travailleuses du sexe, le dealer du coin, les artistes, les squatteurs, les bénévoles, tous travaillent d'arrache-pied. La seule différence entre eux et un salarié, c'est le regard du bourgeois qui les méprise car il ne leur apporte rien. Alors, ne nous divisons pas et cherchons plutôt à récupérer cette sécurité sociale qui ne fait que nous glisser des mains. Reprenons-la au plus vite. Vendredi dernier, et ce lundi, je suis donc allé sur le rond-point de Florac, où j'ai croisé la résistance locale face au coup de force autoritaire de l'État, qui cherche une fois de plus à le remettre en cause, ce qui nous revient de fait. Mais à quoi sert donc l'État, à part à nous bloquer dans notre quête d'émancipation ? Peut-être cherche-t-il à nous crever les yeux.
T'es là pourquoi ce matin ? Enfin, qu'est-ce que t'espères en étant sur les ronds-points ?
Bah écoute, de participer un petit peu au moins à des petits blocages, à échanger entre nous, à échanger un petit peu avec les gens dans les voitures. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que malgré, ils sont très patients, parce que malgré certains qui attendent depuis plus de trois quarts d'heure, il y a des sourires, il y a personne qui s'énerve et on se sent soutenu, quoi, c'est chouette.
On sent des soutiens des gens, ouais.
Ah oui, totalement, là, il y a peut-être... On a peut-être vu passer trois personnes ce matin, depuis 7h du matin qu'on est là, qui étaient un petit peu vénères, quoi, mais rien de méchant. Non.
Sachant qu'il est 10h, on le précise.
Oui, donc ça fait 3h qu'on bloque, là, et bah, tant qu'il y a du monde, on va rester là. Puis maintenant, il y a le soleil, ce matin, ça piquait un peu, ouais.
T'as rien de bon toute journée, à part bloquer des gens qui veulent aller travailler.
Et toi, tu veux travailler jusqu'à 65 ans ?
De toute façon, vous voyez pas que vous êtes des moutons à traverser la route, de toute façon, vous travaillerez. Vous travaillez.
Et oui, c'est ça le problème. Est-ce que ça va...
Si on choisit.
On peut rien faire contre ce qu'ils ont choisi.
Faudrait vraiment bloquer toute la France, non ?
Bonjour. Je bosse pour la radio, Radio Bartas. Je sais pas si vous connaissez.
Radio Bartas, à Koui.
Que vous êtes d'accord avec ce qui se passe sur le rond-point ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Si nous bloquons pas les semis d'arbre,
oui,
qui arrive.
Je voulais aller, le chef ne vous laisse pas. Je voulais aller, le chef, j'avais demandé à un chef. Ouais, je te laisse. Il a dit non, il faut que tu travailles. Je l'avais demandé.
Et toi, ça t'irait d'arrêter le travail?
Ah oui,
de dire, tout. Tu soutiens,
ouais.
Quoi.
Ouais,
toi, non?
On va se permettre.
Pourquoi?
Parce que c'est un jour sans solde, donc c'est quand même un jour de perdu.
Est-ce que si t'es là, finalement, c'est que t'aurais pas compris la réforme en cours?
Ouais, ça doit être ça, ouais. La France d'en bas ne comprend rien, quoi. Bon, moi, je suis contre la réforme. Hein. Et puis, je suis là aussi parce que... Mais le 49-3, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Les gens sont contre la réforme et on passe ça à l'arrache. Il n'y a aucun respect des gens, quoi.
Voilà. Tu te sens encore en démocratie ?
Ça commence à... On peut se poser la question. Hein. Moi, je trouve qu'on est dans un système de plus en plus autoritaire et de plus en plus... policiers, autoritaires.
Vous voulez klaxonner ?
Allez, un petit coup de klaxon.
Allez, un petit coup de klaxon.
Ouais,
allez.
Un gros coup de klaxon.
Est-ce qu'il y a des relais politiques de là à la mobilisation qu'on vit aujourd'hui qui nous permettraient de faire ça en France? C'est quoi un peu les débouchés pour toi politiques en tout cas?
Bah, je pense que les partis de gauche vont essayer de bouger les choses et j'espère qu'ils ne se restreindront pas justement à la seule réforme et qu'ils entendront le mécharge du peuple qui déborde et ce ras-le-bol généralisé qui va voilà, largement au-delà du problème des 64 ans. C'est à eux de s'emparer de l'exaspération générale. Je crois qu'on est en train de vivre quelque chose dans le pays et il faut s'en emparer, simplement. Le vivre posément, c'est un moment de l'histoire.
Alors est-ce que le problème c'est l'existence de l'État ou c'est le gouvernement ?
C'est une très bonne question qui nécessiterait je pense quelques heures de longs échanges autour de houblon. Mais c'est, je pense que le gouvernement, ce gouvernement-là notamment, c'est vraiment l'archétype d'un gouvernement de marionnettes dirigé par les plus grosses fortunes mondiales. Et je ne suis pas sûr que ça aurait été aussi pire avec un gouvernement un peu plus tourné vers le social, le peuple et la répartition des richesses. Mais on est toujours déçus, donc on ne sait pas. Mais je pense que ta question mérite vraiment qu'on s'y penche davantage que là, au bord d'un rond-point à 9h du matin, lundi matin.
C'est sûr.
C'est une très bonne question.
Et en même temps, est-ce qu'on a des endroits aujourd'hui où penser ces questions? Est-ce qu'on a des espaces où c'est facile de se mettre tous ensemble? Bon, à part le houblon, bien sûr, comme tu disais.
Sorti des bibliothèques universitaires, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'espace pour avoir ce genre de discussion, effectivement. C'est le bon moment. Mais ton micro étant assez intimidant, je suis pas sûr d'avoir les mots les plus pertinents pour étudier cette question-là.
Et oui, pas facile hein, forcément d'avoir des témoignages. C'est vrai qu'une fois que le micro est coupé, on arrive à parler avec les gens, c'est plus difficile voilà, d'aller au fond des choses dans ces contextes-là. Donc pour finir, si on fait un petit tour d'horizon de ce qui se passe en France, on sent un réveil et je dirais que c'est plutôt stimulant quand même. On peut ressentir une force d'impatience à l'avancée du mouvement social, à aller au bout de ce qui a déjà commencé. Donc jeudi 23, bien sûr, ce sera une mobilisation nationale portée par l'intersyndicale, donc une journée où des préavis de grève sont posés. Il y en a dans les secteurs du transport ferroviaire, maritime, aérien et aussi dans le transport dans les villes. Dans les collèges et lycées où la jeunesse est aussi très mobilisée, dans la santé et dans la fonction publique en général. Les raffineries de pétrole sont à l'arrêt depuis le 6 mars également. Et enfin, la CGT a invité les éboueurs et les salariés de l'ensemble de la filière des déchets à se mettre en grève reconductible dès le 7 mars. Alors oui, le pays va être bordélisé comme vous dites, mais ça ne sera pas pour vous faire entendre raison mais bien pour vous faire partir. Maintenant, je vous propose d'écouter une petite musique.
Juste après. Ouais, je te dis bravo et merci.
Bah, je t'en prie.
Ouais, c'est vraiment cool. Et comme dirait notre ami JBD, ce n'est qu'un combat, continuons le début.
J'aime bien cette phrase.
Ouais, j'adore. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Radio Bartas. Les 48 heures de la BD, c'est le 1er avril à Saint-Élimi à partir de 10h. Quant à nous, on se retrouve le lundi 3 avril pour de nouvelles aventures. Ce sera avec l'aratoire du CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles. C'est la fin de cette matinale. Profitez bien de votre journée. Restez bien sur Radio Bartas. On n'y est pas très trop mal. Et on se quitte avec Hugo TSR.
Ouais.
Alors, dites pas. À très vite. Ciao.
Imagine qu'on te mette sur une ligne de départ dont la signification est fait à vie. Seulement, on ne te dit pas que ton voisin fera tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Tiens, prenons un exemple. Aujourd'hui, je t'ai tendu la main, je suis un type sympa. Mais demain, je ferai tout, tout pour que tu dégages.
C'est plus des DRH, c'est des militants pour le FN. Je pourrais fuir mais je tourne en rond comme le phare de la tour Eiffel. Leurs projecteurs on kiffe trop l'ombre, des projets forts on kick nos sons. Si la galère était un sport, j'aurais ma place au JO de Londres. Fumeur paraît, dis que tu fais de la variette pour tenter les concerts. Pilote de transpalette, semaine d'après je suis dans le téléconseil. J'ai pas eu le choix, monsieur pouvoir d'achat m'a fait intérimaire. Business et violence pour la jeunesse, un pays de merde. Tout le temps à batailler, on n'est pas de ceux qu'on grave d'achat. Du grave d'aya, des cavaches lag, tout le barnet y'a plus de pute qu'à Pattaya. Les petits graves, le reré au bigrave. Le teuteux, du mal à faire le moi quand t'as la petite. Femme et le top thumb, alors dites pas que je suis pas déter. Certains passent éternes, mais à 7h, je veux juste un tarp pépère. Calculez pas mes cernes, des médias en masse. Leur discours fout des otites, ils parlent du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotisme. Alors dites pas que ce jeune a le choix d'avoir un taf honnête. Pas plus, pas tout ce qu'on propose, c'est conduire une camionnette. Alors dites pas que les chansons sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. Alors dites pas que le racisme a disparu. Trop préjugé dans leur regard, depuis quelques temps, j'évite la rue. Alors dites pas que les chansons sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance. l'adolescence c'est bien joli, mais après sans piston parental, reste pas de château. Apparent sable, à 30 ans je vais être bien, alors tant pis, je prends pas de temps. Soit quoi que tu fasses, il faut du cash, carte bleue ou paypal. J'ai fait un saut dans le vide, j'ai remonté le précipice, mais ça paye pas. Tu fais la queue dans ce monde, je t'en prie, passe devant. Quant à mon salaire de merde, faut pas être fan de viande. Heureusement que je bouffe des rimes, toujours ce flow cramé sur la cassette. Toute l'année à Paname, c'est pas les bras croisés sur la croisette.
On a fait tout ce qu'on a pu pour rebosser. Et tu sais quoi? Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, y'en a que pour les riches.
Rouler des spartis et des flashs depuis les heures de colle. Ma vis décale, le son est fat, ici on swing sans club de gold. Comment rester cool, éloigne-toi du parcours et tu prendras du ferme. Tu taffes pour des bourges que tu rembourses à chaque tu fais. Accroché à la 16, y'a pas d'avenir donc t'es HS. Faudrait sortir la chaise pour Zemmour et PHL. Même sans billets, tant que j'ai des pièces ça va. C'est plus sauvage qu'en pleine savane, je cours après un taf. Alors dites pas que je suis un train de savane. Alors dites pas, que ce jeune a le choix d'avoir un taf honnête. Pas que plus pas tout ce qu'on te propose, c'est conduire une camionnette. Alors dites pas que les chansons sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous ces goûts à la naissance, c'est bien joli, mais après. Alors dites pas que le racisme a disparu. Trop préjugé dans leur regard, depuis quelques temps j'évite la rue. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous ces goûts à la naissance, c'est bien joli, mais après.